quitter le studio Kalangou, il est 17h. Dans un instant, le journal en français avec Rafika Taher. Lundi 14 mars 2022, à présent les titres du journal. Comment articuler la relation entre civils et militaires? C'est à cette question que les humanitaires et les forces de défense vont répondre dans un atelier d'échange ouvert ce matin à Niamey. Les détails dans cette édition. Un regroupement de syndicats de l'éducation et le gouvernement ont signé un protocole d'accord vendredi pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants. À suivre les précisions. Dans la partie magazine de ce soir, il sera expliqué l'exécution des arrêts rendus par la Cour de justice de la CEDEAO dans les États membres. Initialement prévu pour ce lundi 14 mars, le procès en appel du journaliste d'investigation Moussa Aksar est reporté au 11 avril 2022 suite à l'absence des avocats de la partie civile. Le 7 mai dernier, le journaliste Moussa Aksar a été condamné par la justice à payer une amende de 200 000 francs CFA et 1 million de francs CFA de dommages et intérêts suite à une plainte pour diffamation déposée contre lui par un citoyen qu'il avait cité dans le cadre de son enquête relative au détournement de fonds au ministère de la Défense. Il a fait appel de la décision. Du 14 au 18 mars, un atelier de formation en coordination civilo-militaire aura lieu à Niamey. Il est organisé par le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA et le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies au Niger. Selon le commandant Salem, chef de bataillon état-major des armées du Niger, dans le contexte sécuritaire au Liptako-Gourma, la coordination civilo-militaire représente un impératif pour faire respecter les principes humanitaires et militaires. Propos recueillis par le studio Kalangou.
Le contexte sécuritaire dans lequel nous évoluons aujourd'hui nous interpelle tous, donc acteurs sécuritaires comme acteurs humanitaires. Et nos missions respectives aussi nous obligent d'interagir de façon permanente pour l'atteinte d'un objectif commun. L'objectif principal, c'est toujours trouver les voies et moyens pour soulager la souffrance de nos populations. Le seul moyen possible d'atteindre cet objectif passe forcément par une coordination et aussi la connaissance du monde humanitaire par les militaires et vice-versa. Il faut que les deux acteurs puissent comprendre exactement comment l'un et l'autre fonctionnent. Et je me dis qu'il n'y a pas meilleur tremplin que cet atelier qui se tient. Et c'est l'occasion ou jamais pour surtout les acteurs militaires à beaucoup interagir. Il faut poser beaucoup de questions pour lever pas mal d'équivoques. Les ONG, c'est quoi leur but? Pourquoi elles font ceci? Pourquoi les ONG font cela? Parce qu'il y a les principes humanitaires qui sont là et il y a nos réalités militaires aussi qui sont là. On a des impératifs qu'on doit suivre.
Le comité interministériel et le cadre de concertation des syndicats de l'éducation ont signé vendredi un protocole d'accord sur 13 points inscrits dans la plateforme revendicative du 3 décembre 2021. Il s'agit entre autres de la normalisation du système des concours professionnels de la programmation et l'accélération du processus de recrutement des enseignants contractuels. Ibrahim Cheibou, co-coordinateur du cadre de concertation des syndicats de l'éducation, au micro de Moussa Hassan.
Au niveau des contractuels, avec la politique du président de la République, il a annoncé un recrutement de 2150 enseignants du secondaire, de la formation scientifique, les âgés qui ont plus de 45 ans. Mais nous voulons que le processus aille le plus vite possible dans l'objectif de pouvoir finir avec la contractualisation. Deuxièmement, nous avons 5000 enseignants contractuels qui ont des arriérés. Et le gouvernement a pris des dispositions pour payer ces arriérés en deux tranches, fin de ce mois et la fin du mois de juin. En même temps, les DAPC et JO, la liste est au niveau de finances. On est en train de traiter leur situation au Parlement. Et ceux qui sont titulaires, leurs problèmes des incidences financières sont en train d'être réglé. Nous appelons toujours nos camarades contractuels d'avoir la confiance avec Niger Post qui est une institution étatique. Les autres institutions là sont plus chères de la retenue de compte et Niger Post ne fait pas de coupure à la source.
Des cas de rougeole chez les enfants continuent de grimper dans le département de Burning Konni, région d'Ottawa. Pour contrer cette propagation, une autre campagne de vaccination vient de débuter. Les explications avec Ousmane Abdoulmoumouni, le communicateur du district sanitaire de Burning Konni, au micro de Assoumane Moussa Arzika.
Nous étions confrontés à la menace de la rougeole dès au début de l'année parce que nous avons enregistré à peu près 357 cas, notamment des enfants. Actuellement, nous enregistrons d'autres enfants atteints dans des villages comme Kirba, Dole, Babu Dole, Tabani et jusque dans la ville de Kwani. Elle s'est répandue jusqu'à Dosei, Fola et même à Dabaga des cas sont enregistrés. Dès l'apparition de la maladie, nous avons lancé la campagne de vaccination pour les enfants, ceux qui sont déjà atteints sont sous traitement. Pour le moment, ça va, car on n'a pas enregistré de décès. Cette campagne de vaccination doit toucher 60 000 enfants, mais nous n'avons pu attendre que 20 000 enfants jusqu'ici, donc il reste 40 000 autres. Et nous nous investissons pour les vacciner.
La journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique s'est tenue à Niamey le samedi 12 mars. Cette rencontre a pour but d'accélérer l'inclusion financière, a déclaré Mme Louise Aubin, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger. Propos recueillis par Alita Jissir.
Le taux de bancarisation stricte du Niger est l'un des moins performants de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un taux très pauvre de 6,8% de personnes adultes détenant un compte dans les banques, les services postaux, les caisses nationales d'épargne ou encore le trésor. Toutefois, ce dont il est question ici, c'est d'améliorer le taux de bancarisation élargi par tous les moyens afin de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Avec le concours de l'ingéniosité et de la créativité du secteur privé ici représenté, il nous est possible d'atteindre les objectifs ambitieux de la stratégie nationale d'inclusion financière et de la stratégie régionale d'inclusion financière de l'Union économique monétaire ouest-africaine, à savoir permettre à 75% de la population l'accès aux produits et services financiers adaptés à leurs besoins.
Le caracal ou le lynx du désert est classé en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Au Niger, l'un des refuges de cet animal sauvage reste les collines de l'Aïr dans la région d'Agadez. Malheureusement, il est victime de braconnage. Des mesures sont envisagées pour lutter contre ce braconnage, selon le colonel Salifou Mamoudou, directeur régional de l'environnement au micro d'Anissé Karim.
Dans la réserve naturelle de l'Aïr Ténéré, tout ce qui se trouve à l'intérieur sont des espèces qui sont protégées. Malheureusement, c'est le temps vraiment des braconniers sur cette espèce. Caraca, l'espèce-là vraiment est protégée. Les gens doivent quand même laisser vivre tranquillement. Et tout celui qui ose prendre ça, si on le prend par hasard, en tout cas, on va lui faire un PV et l'envoie à la gendarmerie ou à la justice. Et l'espèce en question, caraca, physiquement pour le reconnaître, c'est comme si le chat, mais un peu différent. À travers sa physionomie avec le chat, et ça se trouve uniquement dans la zone, là se trouvent les collines, et ça ne peut être que dans la réserve de l'Aïr de Ténéré. Et c'est une espèce qui est en voie de disparition. Tout simplement, c'est dû à l'action de l'homme, c'est-à-dire le braconnage. Donc, nous attirons l'attention des uns et des autres par rapport à ça. Tout celui qu'on prend avec Caraca, sans blague, il n'y aura pas de menace de pitié dans ce sens.
En prélude de la 4e édition du Festival international du rire qui s'ouvre ce soir à Niamey, le Centre culturel franco-nigérien de Zender et l'association Bafoune Dijo, Miroir de la vie, ont organisé une formation de 3 jours pour les jeunes humoristes en herbe la semaine dernière. Maman Hiro Abdelaziz, promoteur du festival, interrogé par Ali Keita.
Cette formation s'est tenue sur 3 jours. C'est vrai que c'est court, mais l'essentiel c'est de le faire. Et ces jeunes, nous donnons une matière. Ils ont besoin plutôt, beaucoup plus des jeunes de Zender pour que ça puisse prendre. Parce que le festival se passe chaque année à Niamey. Et si le festival a un potentiel, des gens qui en valent la peine à Zender, pourquoi ne pas les inviter à Niamey pour le festival? Et ces jeunes, ils ont du talent. Des jeunes de 13 ans, 14 ans, des filles. Le grand talent, la surprise vient de Zender. C'est d'exporter ces métiers hors de Niamey, former des jeunes afin qu'on puisse aider tout le Niger à des humoristes. C'est un peu ça la démarche que nous voudrons entreprendre dans les années à venir. 70% était à la hauteur.
Du sport dans cette édition, la Fédération nigérienne de Jiu-Jitsu, Fenijutsu, s'est réunie hier au Palais des Sports de Niamey pour une cérémonie d'homologation de grade supérieur et de présentation de son nouveau bureau. Maître Madaï Boubar Ibrahim, ceinture noire 6e dan et précurseur de Jiu-Jitsu au Niger, nous parle de cet art au micro de Talata Abdoubahar.
C'est un passage qui se fait annuellement pour récompenser les meilleurs athlètes et ensuite récompenser à travers les témoignages tous ceux qui sont en train de vivre pour la promotion de la discipline au Niger. L'importance du Jiu-Jitsu au Niger. Tout d'abord, c'est un sport. Vous savez les bienfaits d'un sport sur le plan santé physique et mentale. Ensuite, il y a un autre avantage à travers le jiu-jitsu, c'est qu'il a plusieurs faces. Il y a le côté self-défense qui permet l'autodéfense en cas d'attaque. Donc, proportionnellement à l'attaque, la personne peut simplement, avec des techniques très efficaces, se défendre. Ça, c'est la survie de l'individu. Donc, il y a le côté compétition. Là, c'est un autre volet. Mais ce qui peut toucher toute la population, c'est le côté défense et le côté sportif.
En sport toujours, dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football, le représentant du Niger, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale, a perdu face à l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire par le score de 1-0 en match retour qui s'est déroulé hier 13 mars à Cotonou au Bénin. Pour rappel, l'USGN a remporté le match aller disputé le 27 février à Niamey par 2-0. À la fin de la quatrième journée dans cette poule D, l'équipe de l'USGN occupe la dernière place. Dans le magazine Justice de ce lundi, le constitutionnaliste Dr Hassan Boubacar revient sur le poids juridique de la Cour de justice de la CEDEAO sur les États membres. Ceux-ci sont contraints d'exécuter les arrêts rendus par cette Cour. Le constitutionnaliste évoque également les dossiers où le Niger a fait l'objet de jugements par la Cour de la CEDEAO. Il est joint au téléphone par Balkissa Hamidou.
La Cour de justice de la CEDEAO est l'organe judiciaire principal donc de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui peut être saisie pour avis consultatif, mais surtout à travers son office juridictionnel qui peut être saisie par des particuliers ressortissants des États membres de la CEDEAO contre des États ou contre des particuliers lorsqu'ils seraient victimes de violations de leurs droits humains sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO. Et lorsque la juridiction communautaire rend des décisions, les États sont censés exécuter les décisions puisque les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO rendus dans le cadre contentieux sont des décisions donc juridictionnelles qui sont exécutoires puisqu'elles sont rendues en premier et dernier ressort. Les États sont tenus de les respecter.
Est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO a un pouvoir contraignant?
Non, elle n'a pas de pouvoir contraignant en tant que tel, mais il faut quand même relever que d'abord, la Cour de justice de la CEDEAO a été créée par un protocole de 1993 avant qu'elle ne soit formalisée par l'article 15 du traité révisé de 1993. Donc, un engagement des États. Toute la difficulté de l'exécution des décisions communautaires, surtout lorsqu'elles sont rendues contre des États, les États sont souverains, il n'y a pas d'absence, en tout cas, de pouvoir de coercition à l'encontre des États pour pouvoir s'exécuter. Mais dans la plupart des cas, la décision de la juridiction communautaire en matière de violation des droits humains se résolve en l'allocation des dommages et intérêts. Et le plus souvent, les États dans lesquels cette décision serait rendue s'exécutent. Maintenant, pour les autres décisions, c'est là où lorsque les États pensent qu'elles heurtent leur souveraineté et le régime à le faire.
Est-ce que les Nigériens ont l'habitude de saisir la Cour de justice de la CEDEAO en cas de violation de leurs droits?
Vous vous rappelez que pour la première fois, pour le cas du Niger, la Cour de justice de la CEDEAO s'était déportée en 2007-2008 dans le cadre de l'affaire de Khadija Toumani Korow, où l'audience s'est tenue ici même à Niamey, au siège de la Cour suprême, où justement l'État du Niger a été reconnu coupable de n'avoir pas protégé les droits de la dame Khadija Toumani Korow, qui aurait été réduite à l'esclavage. Je pense que ça a été exécuté. L'autre aussi, décision quand même importante, qui est la Cour de justice de la CEDEAO a rendue, c'était dans l'affaire des héritiers Barré Menassara Ibrahim, où la Cour de justice de la CEDEAO a reconnu le droit à la famille Barré par rapport aux circonstances de l'assassinat du défunt président de la République et également la condamnation de l'État du Niger justement pour cet assassinat a payé à la famille Barré un certain montant.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Tarnal Foudaï Ahmed pour le journal en tamashek.